Mais il est temps d'arriver à notre troisième principe, qui est que les décrets et les ordres de Dieu, et par conséquent sa providence, ne sont dans l'Écriture rien autre chose que l'ordre de la nature. En d'autres termes, quand l'Écriture dit qu'une chose est l'œuvre de Dieu, ou qu'elle a été faite par sa volonté, elle entend que cette chose s'est faite suivant les lois et l'ordre de la nature, et point du tout, comme le croit le vulgaire, que la nature a cessé d'agir pour laisser faire Dieu, ou que son cours a été quelque temps interrompu. Du reste, l'Écriture ne s'explique jamais directement sur ce qui n'a point de rapport à l'enseignement qu'elle veut donner, par cette raison que nous avons déjà établi en traitant de la loi divine, que son objet n'est nullement d'expliquer les choses par leur cause naturelle, ni de résoudre des questions de pure spéculation. Nous vous proposons donc ici d'interpréter dans notre sens certains récits de l'Écriture qui se trouvent être plus étendus et plus circonstanciés que les autres. En voici quelques-uns. Dans le livre de Samuel, chapitre 9, verset 15-16, il est dit que Dieu révéla à Samuel qu'il enverrait vers lui Saül. Et toutefois Dieu n'envoya pas Saül vers Samuel, comme les hommes envoient d'ordinaire telle personne vers telle autre. Cet envoi de Saül accompli par Dieu fut tout simplement l'ordre même de la nature. Saül, en effet, comme on le raconte au chapitre précédent de Samuel, était à la recherche des ânes qu'il avait perdus. Et après avoir délibéré s'il rentrerait ou non dans sa maison sans les avoir retrouvés, il se décida, par le conseil d'un de ses serviteurs, à aller trouver le prophète Samuel pour apprendre de lui en quel endroit il pourrait retrouver ses ânes. Et de même, dans toute la suite de ce récit, on ne voit pas que Saül ait suivi aucun ordre particulier de Dieu. Ce fut le cours naturel des choses qui le conduisit chez Samuel. Dans le psaume 105, verset 24, il est dit que Dieu changea les dispositions des Égyptiens et leur fait prendre en haine le peuple juif. Mais ce changement fut parfaitement naturel, comme on le voit clairement dans l'Exode, chapitre 1. Qui donne une raison très forte du dessein que prirent les Égyptiens de réduire les Israélites en esclavage. Au chapitre 9 de la Genèse, verset 13, Dieu dit à Noé qu'il se manifestera dans la nue. Or cette action de Dieu n'est rien autre chose qu'une réfraction et une réflexion que subissent les rayons du soleil en traversant les gouttelettes d'eau suspendues dans les nuages. Au psaume 147, verset 18, cette action naturelle du vent, qui fond par sa chaleur la gelée et la neige, est appelée parole de Dieu. Et au verset 15, le vent et le froid sont également appelés parole de Dieu. De même, au psaume 104, verset 4, le vent et le feu prennent le nom d'envoyé de Dieu, de ministre de Dieu. Et il y a ainsi dans l'Écriture une foule de passages qui marquent très clairement que le décret de Dieu, son commandement, sa parole et son verbe, sont tout simplement l'action et l'ordre de la nature. Il ne faut donc pas douter que tous les faits racontés par l'Écriture ne se soient passés naturellement, et cela n'empêche pas de les rapporter à Dieu. L'Écriture, je le répète, n'ayant pas pour objet d'expliquer les choses par leur cause naturelle, mais seulement de faire un tableau des événements les plus capables de frapper l'imagination, et d'en présenter le récit dans l'ordre et avec le style qui dispose le mieux à l'admiration, et qui, par conséquent, tourne le plus fortement l'âme du vulgaire à la dévotion. Si donc nous rencontrons dans l'Écriture le récit de certains faits dont la cause naturelle nous échappe, ou même qui semble contraire aux lois de la nature, cela ne doit point nous arrêter et nous devons demeurer convaincus que tout ce qui est effectivement arrivé est arrivé naturellement. Ce qui confirme cette doctrine, c'est qu'on voit clairement par le récit de plusieurs miracles qu'ils ont été accompagnés de certaines circonstances que le récit ne mentionne pas toujours, surtout quand il est conçu et comme chanté dans le style de la poésie. Or, ce sont justement ces circonstances qui font voir que le miracle s'est produit par des causes naturelles. Ainsi, quand Moïse voulut que les Égyptiens furent dévorés d'ulcères, il répandit dans l'air de la cendre chaude. Exode, chapitre 11, verset 10. Ce fut aussi par un décret de Dieu tout semblable, c'est-à-dire un décret naturel, savoir par un vent d'Orient qui souffla nuit et jour, que les sauterelles couvrirent l'Égypte, et il fallut un vent impétueux d'Occident pour les enchasser. Exode, chapitre 10, verset 14-19. De même encore, le décret divin qui ouvrait la mer aux Hébreux, Exode, chapitre 14, verset 21, ne fut rien autre chose qu'un vent d'Orient qui souffla avec violence pendant toute la nuit. Si Élisée rendit la force et la vigueur à un enfant que l'on croyait mort, il eut besoin de se pencher sur lui à plusieurs reprises, jusqu'à ce que l'enfant fût réchauffé et rouvrit les yeux. Roi, livre 2, chapitre 4, verset 34-35. On trouve aussi dans l'évangile de Jean, chapitre 9, le récit de certaines circonstances préliminaires dont Jésus-Christ se servit pour guérir un aveugle. En un mot, je pourrais citer ici une foule de récits de l'Écriture qui prouvent suffisamment que les miracles requièrent d'autres conditions qu'un simple commandement de Dieu, comme on dit. Il faut donc croire que si les circonstances des miracles et les causes naturelles qui les expliquent ne sont pas toujours mentionnées, elles n'ont pas été moins nécessaires à leur accomplissement. Ainsi, dans le récit de l'Exode, chapitre 14, verset 27, on voit qu'au seul commandement de Moïse, la mer recommença de s'enfler. Et il n'est pas question du vent. Mais dans le cantique de Moïse, chapitre 15, verset 10, il est dit que la mer s'enfla par un souffle de Dieu, c'est-à-dire par un vent très fort. Par où l'on voit que si cette circonstance a été omise dans le récit qui précède, c'est pour que le miracle parût plus grand. On dira que nous trouvons dans l'Écriture une foule de choses qui ne semblent pas pouvoir être expliquées en aucune façon par des causes naturelles. On y voit, par exemple, que les péchés des hommes et leurs prières peuvent être cause de la pluie et de la fertilité de la terre, que la foi a pu guérir des aveugles et une infinité de choses semblables. Mais je crois avoir déjà répondu à cette objection. J'ai montré en effet que l'Écriture n'a jamais pour objet d'expliquer les choses par leur cause prochaine, mais seulement de les présenter dans un certain ordre et avec un certain style, capable d'expliciter la dévotion des hommes, particulièrement du vulgaire. Et c'est pourquoi elle s'exprime sur Dieu et sur toute chose d'une façon très peu exacte. Car ce n'est point la raison qu'elle veut convaincre, c'est l'imagination qu'elle veut frapper. Supposez en effet que l'Écriture raconte la chute d'un empire à la façon des écrivains politiques, le peuple n'en sera nullement touché. Mais il arrivera justement le contraire, si on fait un tableau poétique de cet empire qui s'écroule, et si on a soin, comme l'Écriture, de tout rapporter à Dieu. Lors donc que l'Écriture raconte que la terre est devenue stérile à cause des péchés des hommes, ou que les aveugles ont été guéris par leur foi, nous ne devons pas plus être choqués de tout cela que de l'entendre dire que Dieu s'irrite des péchés des hommes, qu'il en est contristé, qu'il regrette le bien qu'il leur a promis et qu'il leur a fait. Ou encore, que Dieu se souvient, en apercevant quelques signes, d'une promesse par laquelle il s'est engagé, et mille paroles semblables qui sont des images poétiques, ou bien qui marquent seulement les opinions et les préjugés de l'écrivain. Concluons donc sans hésiter que tout ce qu'il y a de vrai dans les récits de l'Écriture s'est passé selon les lois de la nature qui régissent toutes choses. Et si l'on y rencontre quelque événement qui soit évidemment contraire aux lois naturelles, on ne puisse absolument pas s'en déduire, il faut croire alors qu'il a été ajouté aux saintes Écritures par une main sacrilège. Car ce qui est contre nature est contre la raison, et ce qui est contre la raison, étant absurde, doit être immédiatement rejeté. Il ne me reste plus qu'à présenter quelques remarques sur l'interprétation des miracles, ou plutôt à reprendre, car le principal est dit, les points que je viens d'exposer et à les éclaircir par un ou deux exemples. Ce qui rend ces explications nécessaires, c'est que je crains qu'en interprétant mal quelques miracles, on ne suppose témérairement qu'on a rencontré dans l'Écriture quelque chose de contraire à la lumière naturelle. Il est bien rare que les hommes racontent un événement tout simplement comme il s'est passé sans rien ajouter au récit. C'est surtout quand ils voient et entendent quelque chose de nouveau qui leur arrive, à moins qu'ils ne soient fortement en garde contre leurs opinions préconçues, d'en avoir l'esprit tellement prévenu qu'ils aperçoivent les choses tout autrement qu'ils ne les voient ou les entendent raconter. Particulièrement si l'événement dont il s'agit passe la portée de celui qui le raconte ou de celui qui l'entend raconter, et plus encore si tous deux sont intéressés à ce que les choses se soient passées de telle ou telle façon. De là vient que dans les chroniques et les histoires, les hommes exposent bien plutôt leurs opinions sur les choses que les choses elles-mêmes. De telle sorte que si un seul et même événement est raconté par deux hommes d'opinions différentes, on pourrait croire qu'il s'agit de deux événements différents. Et il est souvent très facile de déterminer, par le caractère d'une certaine histoire, les opinions de l'historien. Je pourrais confirmer ces réflexions en citant un grand nombre de philosophes qui ont écrit l'histoire de la nature, une foule de chroniqueurs. Mais cela est présentement superflu. Et je vais me borner à un exemple tiré de l'Écriture sainte, me fiant pour le reste à la sagesse du lecteur. Au temps de Josué, les Hébreux, ainsi que nous l'avons déjà remarqué, croyaient, comme fait encore le vulgaire, que le soleil se meut d'un mouvement diurne et que la terre est en repos. Ils ne manquèrent pas d'accommoder à cette opinion le miracle qu'ils virent s'accomplir quand ils livrèrent bataille aux cinq rois. Car ils ne dirent pas simplement que le jour de cette bataille fut plus long qu'à l'ordinaire. Ils ajoutèrent que le soleil et la lune s'étaient arrêtés, avaient suspendu leur mouvement. Or, il est clair que cette manière de présenter l'événement était très propre à agir sur les nations païennes de ce temps qui adoraient le soleil et à leur prouver, par le témoignage des faits, que le soleil est sous l'empire d'une puissance plus haute qui peut l'obliger par sa seule volonté à changer l'ordre de son cours. Ainsi donc, moitié par religion, moitié par suite de préjugés établis, les Hébreux furent amenés à concevoir un événement et à le raconter tout autrement qu'il n'avait pu effectivement se produire. Il est par conséquent nécessaire, pour interpréter les miracles de l'Écriture et s'en faire une juste idée d'après le récit qu'on a sous les yeux, de connaître les opinions des premiers témoins de ces faits miraculeux et de ceux qui nous ont transmis leurs témoignages, et d'établir une distinction profonde entre les opinions du témoin ou de l'écrivain et les faits eux-mêmes tels qu'ils ont pu se présenter à leurs yeux. Faute de cette distinction, on confondra les faits réels avec des opinions et des jugements. Ce n'est pas tout. On confondra ces faits avec d'autres faits tout fantastiques qui n'ont eu lieu que dans l'imagination des prophètes. Car il ne faut pas douter que dans l'Écriture, une foule de choses ne soient données comme réelles et qu'on croyait effectivement réelles, qui ne sont au fond que des représentations imaginaires, comme par exemple que Dieu, l'être en soi, soit descendu du ciel, Exode chapitre 19 verset 28, Deutéronome chapitre 5 verset 28, que le mont Sinaï ait lancé de la fumée, parce que Dieu venait d'y descendre entouré de flammes, ou enfin, qu'Élie soit monté au ciel sur un char enflammé traîné par des chevaux de feu. Ce ne sont là que des représentations fantastiques, appropriées aux opinions de ceux qui nous les ont racontées, lesquels en effet nous ont décrit les choses comme ils les avaient imaginées, c'est-à-dire comme réelles. Quiconque a l'esprit un peu élevé au-dessus du vulgaire sait parfaitement que Dieu n'a ni droite ni gauche, qu'il n'est pas en mouvement ni en repos, ni situé en tel endroit, mais qu'il est absolument infini et qu'il contient toutes les perfections. On sait tout cela, je le répète, quand on règle ses jugements sur les perceptions de l'entendement pur et non pas sur les impressions des sens et de l'imagination, comme fait le vulgaire, qui se représente un Dieu corporel, entouré d'une pompe royale, assis sur un trône élevé, par-delà les étoiles, au plus haut de la voûte céleste, sans que cette distance toutefois l'éloigne beaucoup de la terre. C'est de pareilles opinions que sont appropriées une foule de récits de l'Écriture, que des philosophes ne peuvent par conséquent pas prendre à la lettre. Je conclus qu'il importe, pour se rendre compte des miracles et savoir comment ils se sont passés, de connaître le langage et les figures hébraïques. Et quiconque n'y fera pas une attention suffisante risquera de trouver dans l'Écriture plusieurs miracles que l'historien a jamais pensé à donner pour tels. De façon qu'il ignorera non seulement la véritable manière dont se sont passées les choses, mais la pensée même des auteurs sacrés. Je vais citer quelques exemples. Zacharie, chapitre 14, verset 7, prédisant une guerre prochaine, s'exprime ainsi. Il y aura un jour unique, connu du Seigneur seul, qui ne sera ni jour ni nuit, mais sur le soir la lumière paraîtra. Ces paroles ont l'air de prédire un grand miracle, et cependant, le prophète ne veut rien dire autre chose, sinon que le succès du combat sera tout le jour incertain, que Dieu seul en connaît l'événement, et qu'enfin les Hébreux vers le soir seront vainqueurs. C'est avec des formes de style semblables que les prophètes prédisaient d'ordinaire les victoires et les revers des nations. Entendons Isaïe dépeignant la ruine de Babylone, chapitre 13. Les étoiles et les astres du ciel ne feront plus briller leur lumière. Le soleil s'obscurcira à son lever et la lune ne répandra plus ses clartés. Or, je ne suppose pas que personne s'imagine que tout cela est arrivé à l'époque de la dévastation de l'empire babylonien. Pas plus que ce qu'ajoute le prophète. C'est pourquoi je ferai trembler les cieux et la terre sera ôtée de sa place. Isaïe emploie encore le même langage, chapitre 48, dernier verset, quand il prédit aux Juifs qu'ils reviendront à Babylone sans que leur sûreté soit troublée et sans souffrir de la soif pendant le chemin. Et ils n'ont point eu soif, dit-il. Il les a conduits au travers des déserts et il leur a fait couler l'eau du rocher. Il a fendu le rocher et les eaux se sont répandues. Ce qui signifie tout simplement que les Juifs trouveront dans le désert des sources pour étancher leur soif. Puisqu'il est certain qu'au retour des Juifs de Babylone, autorisés par Cyrus, il ne se produisit aucun miracle de cette sorte. On rencontre ainsi dans l'Écriture une foule de miracles apparents qui ne sont au fond que des figures hébraïques. Et il n'est pas nécessaire que je les cite ici l'un après l'autre, qu'il me suffise de montrer que ces figures n'ont pas seulement pour objet d'orner le récit, mais qu'elles servent principalement à lui donner un caractère religieux. C'est pour celui qu'on trouve dans l'Écriture sainte « bénir Dieu » pris dans le sens de « maudire », Roi, livre 1, chapitre 21, verset 10, Job, chapitre 2, verset 9. C'est encore pour cela qu'elle rapporte tout à Dieu, de façon qu'elle a toujours l'air de raconter des miracles, même quand elle parle des événements les plus naturels, comme on peut le voir par plusieurs exemples que j'ai cités. Ainsi, quand l'Écriture dit que Dieu avait endurci le cœur de Pharaon, cela signifie, tout simplement, que Pharaon avait le caractère opiniâtre. Et quand elle dit que Dieu a ouvert les fenêtres du ciel, il faut entendre qu'il a beaucoup plu, et ainsi pour tout le reste. Si donc, on veut bien se rendre attentif à toutes ces choses, et considérer en outre que l'Écriture sainte contient beaucoup de récits où les faits sont exposés rapidement, sans aucune de leurs circonstances, et en quelque sorte dans un état de mutilation, on ne trouvera presque rien dans les livres sacrés qui soit essentiellement contraire à la lumière naturelle, et une foule de choses qui avaient paru jusque-là très obscures se feront comprendre et interpréter sans effort. Je crois avoir atteint l'objet que je m'étais proposé dans ce chapitre. Mais avant de le terminer, j'ai une observation à faire. C'est que la méthode que je viens d'appliquer au miracle n'est pas la même que celle dont je me suis servi pour les prophètes. Je n'ai rien affirmé touchant les prophéties que je ne fusse en état de le déduire des Saintes Écritures. Ici, au contraire, j'ai pris pour base les principes qui nous sont fournis par la lumière naturelle, et c'est avec intention que j'ai procédé de la sorte. La matière de la prophétie étant en effet au-dessus de la portée humaine, et tombant dans le domaine des questions de pure théologie, je ne pouvais rien affirmer sur cette matière, ni même savoir en quoi elle consiste, sans m'appuyer sur la révélation. J'ai donc été obligé de tracer une histoire de la prophétie et d'en déduire quelques principes capables de m'éclairer autant qu'il est possible sur la nature de la prophétie et sur ses prophéties. Mais quant au miracle, comme il s'agit de savoir s'il peut arriver dans la nature quelque chose qui soit contraire à ses lois ou qu'il ne puisse en déduire, je n'avais pas besoin de la révélation pour résoudre cette question qui est toute philosophique. Et j'ai jugé plus à propos de n'employer pour délier le nœud de toutes les difficultés qu'elle présente que les principes les mieux connus, c'est-à-dire les principes fondamentaux que nous donne la lumière naturelle. Je dis qu'il m'a paru plus à propos de procéder de la sorte. J'aurais pu en effet résoudre aussi la question avec facilité par les seuls principes de l'Écriture, et c'est ce que je vais prouver en peu de mots. L'Écriture, parlant en plusieurs endroits de la nature en général, dit qu'elle suit un ordre fixe et immuable. Par exemple, dans les psaumes 148, verset 6, et dans Jérémie, chapitre 21, verset 35-36. En outre, le philosophe enseigne expressément en son Ecclésiaste, chapitre 1er, verset 18, que dans la nature, il n'arrive rien de nouveau, et, éclaircissant un peu plus bas cette pensée, versets 11 et 12, il dit que, bien qu'en certaines rencontres, il se produise des choses qui semblent nouvelles, elles ne sont pas pourtant absolument nouvelles, et se sont déjà produites dans les siècles antérieurs qui n'ont pas laissé le souvenir. La mémoire du passé, ajoute-t-il, s'évanouit pour les générations nouvelles, comme celle du présent s'évanouira pour les générations futures. Au chapitre 3, verset 11, il déclare que Dieu a parfaitement ordonné toutes choses, chacune en son temps. Et au verset 14, « Tout ce que Dieu fait doit demeurer pour toute l'éternité, sans qu'il soit possible d'y rien ajouter ou d'en rien retrancher. » Paroles qui établissent clairement que la nature garde toujours un ordre fixe et immuable, que Dieu, dans tous les siècles, connus ou inconnus de nous, est resté le même, que les lois de la nature sont si parfaites et si fécondes qu'elles n'ont besoin d'aucune addition et ne souffrent aucun retranchement, enfin, que les événements miraculeux ne sont miraculeux et nouveaux qu'au regard de l'ignorance des hommes, tout cela, dis-je, est expressément enseigné à l'Écriture sainte, et n'y est dit nulle part qu'il arrive rien dans la nature qui soit contraire à ses lois ou ne s'en puisse déduire. D'où il suit qu'il ne faut rien voir de semblable dans l'Écriture. Ajoutez à cela que les miracles supposent toujours de certaines causes et de certaines circonstances, lesquelles ne dérivent pas de je ne sais quelle autorité royale que le vulgaire imagine en Dieu, mais d'un décret vraiment divin, c'est-à-dire, comme nous l'avons prouvé par l'Écriture elle-même, des lois et de l'ordre de la nature. Ajoutez enfin que les imposteurs peuvent aussi faire des miracles, ainsi qu'on le voit clairement par le chapitre 13 de Deutéronome et le chapitre 4, verset 24 de Matthieu. Et de tout cela, il résulte le plus évidemment du monde que les miracles ont été des événements naturels et qu'il faut les expliquer, non pas comme des choses nouvelles pour me servir de l'expression de Salomon ou comme des choses contraires à la nature, mais de telle façon qu'on les rapproche autant que possible des faits naturels. Et pour opérer ce rapprochement, il suffit d'emprunter à l'Écriture elle-même quelques règles que j'ai exposées plus haut. Toutefois, bien que je dise que l'Écriture enseigne toutes ces choses, je n'entends pas qu'elle les enseigne comme des principes nécessaires au salut. J'entends seulement que les prophètes ont considéré les miracles comme nous-mêmes les considérons, et en conséquence, il est loisible à chacun de penser sur cette matière de la façon qui lui paraîtra la plus propre à porter son âme au culte de Dieu et à la religion. C'est aussi le sentiment de Joseph. Il termine ainsi le livre 2 de ses Antiquités. Le mot de miracle ne doit pas nous rendre incrédules. Pourquoi ne croyons-nous pas le récit naïf des anciens Hébreux qui nous racontent qu'une voie de salut leur fut ouverte à travers la mer, que ce soit par la volonté de Dieu ou par le cours naturel des choses? Ne savons-nous pas que, dans un temps qui n'est pas loin de nous, la mer de Pamphylie s'ouvrit, à défaut de tout autre chemin, devant les compagnons du roi de Macédoine, quand Dieu voulut se servir d'Alexandre pour renverser l'Empire persan? Et rien n'est plus certain que cet événement, puisque tous les historiens d'Alexandre s'accordent à le rapporter. Il faut donc que chacun reste libre de penser, touchant les miracles, comme il lui plaira. Voilà les propres paroles de Joseph et son sentiment sur la croyance au miracle.